Ouvrir vos Bibles à Éphésiens, chapitre 4, l'épître de Paul aux Éphésiens, et au chapitre 4. On va peut-être passer quelques dimanches là, dans ces passages-là. Mais Éphésiens, chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 17. Éphésiens 4, et... au verset 17, et je lis jusqu'au verset 24. Éphésiens 4, et au verset 17. Donc il dit, « Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Il y a beaucoup de choses là dans ces quelques mots. C'est du concentré et sucré, comme on dit. Mais on va essayer de voir cela. Mais la pensée qu'on voit surtout, c'est la fin du verset 21 et début du verset 22. C'est la partie, c'est ce que le thème pour ce matin. La fin du verset 21, il dit « Jésus ». C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée et à revêtir et à dépouiller de votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Donc il y a c'est cette notion-là que nous voulons voir. Ce qu'on veut comprendre, et c'est le titre de mon étude, c'est le vieil homme de la vie passée. C'est-à-dire dans la vie chrétienne, pour la vie de chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, il doit y avoir une période qui est passée, et puis il y a une autre période qui a commencé. Ça doit être dans le témoignage de chacun, c'est que voilà ce que j'étais et maintenant voilà ce que je suis. Et c'est deux réalités différentes. C'est pas juste une question, bon, j'étais dans cette religion et maintenant je suis dans cette religion. Non, non, c'est une question de vie changée, d'une autre vie. Et donc, il y a cette première notion d'une vie passée. Nous retrouvons dans ce passage déjà cette notion hein, de il y avait un passé, il y a un dorénavant, hein, je vais appeler ça un dorénavant, et puis entre les deux, il y a un mais, M-A-I-S, qui marque le point où Dieu intervient dans la vie de la personne. Vous le voyez ici. Regardez verset 17, il dit « Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Et puis alors après verset 20, il dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. » Il dit « Il y a ce que vous étiez comme eux avant, mais maintenant ce n'est plus cela. » Il dit la même chose un peu plus tôt, là au chapitre 2, Éphésiens chapitre 2. Et à partir du verset 1, je lis, hein, il dit, Éphésiens 2, il dit, « Mais vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Et verset 4, il dit, « Mais Dieu, qui est riche en bonté. » Il y a un moment, il y a dans la vie de chaque enfant de Dieu, il doit pouvoir regarder et dire, il y a un moment où j'étais comme les autres. Et puis tout d'un coup, il y a un point dans ma vie, plus ou moins tôt dans notre vie, peu importe, mais il y a un point dans notre vie où Dieu intervient. Dieu parle, j'entends, il y a quelque chose qui se passe, et après tout d'un coup, c'est une autre vie. Il y a un changement. Et c'est ça que Paul présente. Bon, c'est ce qu'il a vécu lui-même, hein. Vous connaissez un peu la vie de l'apôtre Paul. Il y avait un temps où il persécutait l'Église tout en croyant plaire à Dieu, parce que pour lui, il était en train de combattre l'erreur. Et puis tout d'un coup, un jour, Dieu lui a parlé d'en haut, Jésus lui a parlé d'en haut. Et après, tout d'un coup, il est devenu un prédicateur de l'Évangile de Christ. Et il y a un point où il y a eu un changement. Et ça doit être vrai dans la vie de chacun d'entre nous. Hein. Même moi qui suis né de pasteur, hein, fils de pasteur, ça n'a rien changé. Il fallait quand même, hein, même si je suis né et j'ai entendu la parole de Dieu depuis ma naissance, j'avais quelques jours, quand j'ai commencé à mettre les pieds à l'église, et certainement que mes 10 doigts, ça suffirait pour compter les dimanches que j'ai ratés depuis ma naissance. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. C'est le fait que un jour, mais Dieu a agi. Dieu est intervenu. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens et qui sont un peu dans la même situation que ces Éphésiens, qui sont dans un contexte corrompu, hein, où il y a du point de vue moral et de pratique et tout cela. C'était une situation spirituellement et moralement corrompue, hein, Éphèse comme Corinthe. Et même nous savons qu'à Éphèse, et il nous suffit de lire Actes chapitre 19 pour voir qu'Éphèse, eh bien, il y avait le grand temple de la déesse Diane, hein, c'était la déesse latine des Romains, Diane, qui par la suite a été assimilée à la déesse grecque Artémis. Mais c'était le grand temple, c'était l'essentiel. Et puis après, il y avait tout ce qui rentrait dans le culte de cette déesse et tout ce qui se pratiquait aux alentours de ce temple. C'était terrible. Alors Paul parle à ces chrétiens, il dit, mais vous, dans quel contexte vous êtes. Et il avait dit la même chose aux Corinthiens, il a dit, je sais quel est le contexte dans lequel vous êtes, j'étais là, j'ai vu. Mais il dit, mais vous, vous êtes différents. Hein? C'est au Corinthien qu'il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il communique cette pensée, et ce qu'il communique, c'est la pensée de Dieu. Hein? C'est pas quelque chose qu'il a inventé. C'est quelque chose que c'est comme cela que Dieu voit les choses. Il dit ce que vous étiez, peu importe, parce que la croix peut le régler. Peu importe ce que vous avez commis, ce que vous avez pu faire, ce que vous avez pu pratiquer, que vous étiez avec l'adoration des démons, n'importe, peu importe. Mais il faut qu'il y ait un moment où Dieu intervient. Et il faut que ça marque un changement, un changement dans notre vie que pas seulement nous prétendons avoir eu, mais que les autres voient. Hein, les autres vont voir notre vie, vont dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es plus le même. Et tout le monde sait qu'on ne change pas comme ça en une nuit. Hein, y a quelque chose qui arrive. Et c'est poussé par l'esprit que l'apôtre Paul écrit ici dans ce chapitre 4, verset 17. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous avez marché comme les païens, mais vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous étiez comme eux, vous avez fait tout ce qu'ils font, mais il y a un moment où ça s'arrête. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Et c'est intéressant le mot païen là. Parce que dans l'esprit du juif, c'était tous ceux qui n'étaient pas juifs, c'était les païens. Nous, on est le peuple de Dieu, eux, c'est les païens. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que l'apôtre Paul le présente. Finalement, pour lui, les païens, c'est tous les non-croyants, juifs ou autres. C'est-à-dire, ou on est en Jésus-Christ, ou on n'est pas. Et il ne fait plus la distinction, parce que depuis que Christ est venu, il n'y a plus cette distinction entre juifs et autres. On est tous des êtres humains, il n'y a pas de distinction. Et il dit, alors, c'est ceux qui sont non-croyants, qui ne sont pas en Jésus-Christ, qui sont les païens, et dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Et païen, peu importe s'il suit une religion ou s'il ne suit pas de religion, s'il est contre la religion ou s'il pratique fidèlement une religion, s'il n'est pas en Jésus-Christ, il est perdu. Et c'est la pensée de Dieu. Et bien sûr, il dit ça, ces Éphésiens, chrétiens éphésiens, et qui sont une petite minorité au sein d'une grande ville, mais il dit, c'est comme vous avez une baignoire et vous avez une goutte d'huile. Et bon, on la voit, elle est là. Bon, elle ne représente pas grand-chose par rapport au volume de la baignoire remplie d'eau, mais la goutte d'huile est là. Elle a son identité, elle existe. Et on doit la reconnaître. Et c'est un peu les enfants de Dieu, ici, surtout ici en France, on est un petit nombre, mais on est un vrai nombre. Et on existe, et on a d'une nature différente. C'est bien de noter, je vous fais noter, que quand l'apôtre Paul ici, eh bien, vous lisez tout ce passage, il n'est pas en train de critiquer le culte de Diane. Il n'est pas en train de dire « Ah, les gens qui croient en Diane, c'est des terribles, ceci. » Il n'attaque pas la religion. Ce qu'il met en valeur, c'est l'attitude du cœur de chacun. C'est ça qui est différent. Ce n'est pas une question « Celui-là, il est musulman, celui-là, il est ceci, celui-là, il est catholique, l'autre, il est hindou, l'autre, il est ceci. » Et alors, le problème, il est dans le cœur de chacun. Peu importe comment il se manifeste. Mais pour lui, le problème est dans le cœur de chacun. Et il dit c'est pour ça qu'il dit « Ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. » C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'ils pensent qu'ils sont. Et c'est vrai. Ce que je pense, je suis. Dans les Proverbes, chapitre 23, verset 7, il dit « Comme il est comme les pensées de son âme. » Il est comme les pensées de son âme. Ce que je pense, je deviens. Peu importe où on est né et sous quel monde on est né, dans quel endroit, en fait, c'est la pensée que j'adopte. Quelque part, en grandissant, au début, j'adopte les pensées de mes parents. Il n'y a rien de plus naturel. Et puis on commence à penser comme notre milieu, notre culture, comme les gens qui sont autour de nous. Et puis, mais il y a un moment dans la vie, je décide. Hein, dans l'adolescence en général, ou les jeunes adultes, décident, moi, voilà. Moi, j'ai rien à faire avec, moi, je veux être un quelqu'un. Et ils se lancent dans la politique, ou ils se lancent pour gagner de l'argent, ou ils se lancent dans le quelque chose, je vais devenir un quelqu'un, moi. Et ce qu'ils pensent, il le devient. Celui qui est devenu astronaute, en général, il l'a décidé quand il est petit. Celui qui est devenu pilote, c'était certainement un rêve d'enfance. Ce que je pense, je deviens. C'est tellement vrai qu'à un certain point, il dit « pense-le, tu l'auras ». Bon, il y a la pensée positive, hein, il y a cette doctrine de la pensée positive. « Pense-le bien fort et tu l'auras ». C'est vrai jusqu'à un certain point. Mais ici, ce qu'il reproche à ces gens, il dit, c'est ce qui ne marchait plus selon le mode de pensée de ceux qui vous entourent. C'est pour eux, ça leur paraît logique, mais il dit qu'ils marchent selon la vanité de leur pensée. Le mot vanité, c'est intéressant parce que ça vient de vain. Quelque chose de vain, ça veut dire que ça donne rien. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ils ont une voie qu'ils ont choisie, qu'ils sont en train de suivre et qui normalement devrait les rendre heureux. C'est ça le principe. En général, hein, je connais très peu de gens qui se disent « moi, je choisis une voie qui va me rendre malheureux ». En général, on choisit quelque chose. Soit après, ils comptent sur l'argent, ils comptent sur le pouvoir, ils comptent sur la réussite, ils comptent sur le plaisir, ils comptent sur quelque chose pour être heureux. Mais vous les regardez, et au bout de quelques années, ou vers la fin de leur vie, vous regardez le résultat. Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont atteint ce qu'ils ont désiré? Et ces derniers temps, on a eu pas mal de personnes très connues, d'artistes et de tout ça, qui sont décédés. Mais dans quel état est-ce qu'ils sont morts? Hein, est-ce qu'ils étaient vraiment heureux? Et la question, c'est-à-dire que quand il dit la vanité de leur pensée, il a dit qu'ils sont en train de marcher dans une manière de penser, mais finalement, ils n'obtiennent pas le résultat escompté. C'est-à-dire, à la fin, eh bien, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Il y en a qui disent, moi, eh ben, je veux de l'argent, je n'ai pas, je grandis trop pauvre, eh bien, je veux de l'argent maintenant. Ben, après, ils sont tentés par la drogue, par exemple, et puis ils font. Et puis très vite, ils sont en BMW devant les copains et ils sont à tout ça. Oui, mais au bout de quelques temps, ils se retrouvent où? Derrière les barreaux, et ce n'est pas ce qu'ils voulaient. C'était une pensée, mais finalement, ils n'ont pas trouvé les résultats escomptés. Un autre. Et après. Bon, vous en avez entendu assez d'histoires. Hein. Même ceux qui ont gagné les gros lots, hein, les loteries, les grandes loteries, tout ça. Et puis se dire, oh, maintenant, je n'ai plus de problème, je peux faire tout ce que je veux. Mais au bout de 20 ans, vous retournez les voir et la plupart, ben, ils sont fauchés. C'est-à-dire que ça n'a pas apporté les résultats à ce qu'on dit. C'est pour ça qu'il dit leur vaine pensée. Et c'est à nous d'avoir les yeux ouverts et de dire, mais ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons, et tout à l'heure notre frère nous parlait de ce que, en Jésus-Christ, eh bien nous allons réellement obtenir ce qu'on cherche, c'est d'être près du Seigneur. Là, ce n'est pas des vaines pensées, ça c'est basé sur des promesses faites par quelqu'un de sûr et quelqu'un qui est capable de les réaliser, Dieu lui-même. Vous savez, ceux qui ont ces idées, ces vaines pensées, qui ont ces projets, et après ça ne réussit pas, parfois ils aiment bien mettre la faute sur nous autres, qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais vous savez, le monde devrait peut-être remettre en question ses pensées, sa manière de voir les choses, sa manière de concevoir le plaisir, sa manière de s'imaginer la réussite dans la vie, sa manière de voir. Vous savez, les gens du monde, ils devraient réévaluer. Il y a quand même assez de gens qui ont été devant nous, la génération passée. Hein, je parle avec ceux qui ont vécu la dernière guerre mondiale. Ils ont dit, ah, ils étaient contents après la dernière guerre. Ils ont dit, maintenant, ça y est, plus de guerre et on va avoir le bonheur matériel, on va se créer un monde de confort et tout ira bien, tout le monde sera heureux parce que tout le monde aura une maison, tout le monde aura de l'argent, tout le monde aura la santé, ce sera très bien, ce sera heureux. Et voilà, nous voilà maintenant, un certain nombre d'années après, la génération est passée, et vous demandez aux jeunes, vous dites, vous croyez qu'on vit dans un monde vraiment heureux, où tout va bien, tout ça? Ils vont dire, pas du tout. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Quelque part, il faut que le monde se pose des questions et dit, mais est-ce que c'est sûr, cette pensée que nous avons, ce rêve que nous avons, est-ce que vraiment on a raison dans cela? Vous savez, vous avez peut-être eu les discussions avec les gens autour de vous, et puis ils vous disent, oh, si Dieu existe, il ne devrait pas y avoir tous les malheurs qu'il y a. Hein, où est Dieu? Et qu'est-ce qu'il fait? Et votre Dieu? Regardez les malheurs qu'on a dans la vie. Et alors on veut mettre la faute de tout ce qui arrive et tout ce qui va mal, on met la faute sur Dieu. Et après, 2 heures plus tard, il vous dit, mais moi je ne crois plus en Dieu. Ben alors pourquoi est-ce que tu lui mets la faute s'il n'existe pas? Comment est-ce que tu peux mettre la faute sur quelqu'un qui n'existe pas? Vous savez, c'est seulement on ne veut pas faire face à la chose. Hein? Et si Dieu n'existe pas, alors tu ne peux pas mettre la faute sur lui de tous les malheurs. Ça. Alors les malheurs proviennent de chez nous. Puisqu'il n'y a rien d'autre, c'est notre destinée est entre nos mains. Ah bon, alors tout ce qui va mal, c'est notre faute. Et si vous dites qu'il y a un Dieu, alors après là, il y a des choses à voir et voir si nous vivons selon ce qu'il désire. Hein, y a un choix, il faut choisir l'un ou l'autre. Et Dieu nous laisse le choix, les hommes sont libres, le soleil brille sur l'un comme sur l'autre, et la pluie tombe sur l'un comme sur l'autre, ça n'y a pas de problème. Pendant ce temps, on a un temps de grâce, comme disait le frère français tout à l'heure. Il y a un temps où on peut faire les choix. Et après il faudra assumer le choix. Vous savez, on a du mal à penser à... le monde autour de nous ne veut pas croire que Dieu, il ne veut pas de Dieu. C'est étonnant parce que il trouve normal, par exemple, que le renard mange une oie pour se nourrir. C'est normal, il l'a tué. Mais bon, c'est normal. Mais, si un homme commet l'homicide, c'est un crime. L'un tue, c'est normal. L'autre tue, c'est pas normal. Quand un être humain tue, c'est pas normal. Pourquoi ? Parce que, non, mais c'est pas normal. Non, pas question. Donc, il y a des valeurs morales. Et les valeurs morales, ça vient de Dieu. Un monde matériel, strictement matériel et physique, n'a pas de valeur morale. Les tables, les chaises, il n'y a rien de moral là-dedans. Tandis que chez l'être humain, il y a quelque chose de moral. S'il y a quelque chose de moral, Dieu existe. Si on a des valeurs morales, si on a reçu, c'est parce que, quelque part, Dieu nous a créés. Et on doit faire face à ces choses. Mais il dit, ici, l'apôtre Paul dit, et c'était vrai, donc il y a 2000 ans, il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont des idées qui n'aboutissent à rien. Hein, et ils les ont vérifiés, ça fait plusieurs générations qu'ils essayent, et ça donne toujours rien du tout. Et verset 18 dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils n'arrivent pas à avoir un raisonnement correct. Ils n'arrivent pas à évaluer correctement le monde qui nous entoure. Ils voient ce monde, ils voient cette beauté, cette nature, et les médecins qui étudient le corps, et puis les autres qui étudient les astres, et les autres qui étudient et tout cela, mais ils n'arrivent pas à voir qu'il y a un créateur derrière. On les entend parfois, les interviews à la radio, on les entend, ils disent, oui, il y a un quelque chose. Je ne veux pas l'appeler Dieu, mais il y a quelque chose. On s'approche presque, mais on ne dit pas Dieu. L'intelligence obscurcie, quelque part, mais obscurcie, et dans un sens, il dit, ils veulent pas voir les choses comme elles sont réellement. Parce que ça engage. Hein. Dès que je reconnais qu'il y a Dieu, après, j'ai un maître pour qui je dois vivre. Et c'est ça qui... Et alors, on s'arrête juste avant. Et alors, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, c'est-à-dire la vie de Dieu, alors là, ils ont carrément d'autres principes, d'autres vies, d'autres valeurs. Et Et donc, ils essayent d'avoir une vie sans Dieu. Et dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Parce que si l'ignorance, si on n'a pas entendu la parole de Dieu, hein, si on n'a pas entendu la parole de Dieu, la vérité de Dieu, et si on n'a pas informé, c'est vrai qu'on est ignorant sur des principes fondamentaux qui feraient toute la différence dans notre manière de voir. Hein, quand on voit les choses comme la Bible les enseigne, on voit la vie autrement. Les mêmes réalités, mais on les explique autrement. On les comprend autrement. On les assume autrement. On les affronte autrement. Mais si on veut exclure Dieu, alors après on est obligé de trouver toutes sortes d'explications qui demandent beaucoup de foi pour les croire. Hein. Et alors, après il y a, alors comment on exclut Dieu, donc après on exclut toutes les valeurs morales, et après on a une vie autrement, il nous parle même de l'endurcissement de leur cœur. Tout à l'heure le frère il nous a fait remarquer que Jésus a reproché aux disciples même l'endurcissement de leur cœur. Vous avez le cœur dur, les femmes vous ont dit qu'ils m'ont vu, vous n'avez pas cru, deux autres frères sur le chemin d'Emmaüs, eh bien, ils m'ont vu, vous ne les avez pas cru, vous avez du mal à croire. Et ça, c'était pour des disciples. Alors, le monde a vraiment le cœur endurci et vous leur parlez, puis ils vous regardent comme si vous étiez en train de leur parler en une langue étrangère. Hein. Mais, vous savez, ce choix qu'ils ont fait, eh bien, le résultat, eh bien, ça va être une vie, comme il dit au verset 18, « ayant perdu tout sentiment ». Ils se sont livrés au dérèglement ou à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est-à-dire, après, notre monde est le résultat de cela. Ils ont choisi une manière de penser, ils vivent selon cette pensée en excluant Dieu, et donc en ignorant certaines réalités, on exclut certaines vérités, et on essaie, le résultat c'est une vie dissolue. Valeur morale, ça a totalement changé, mais au point que c'est étonnant les choses qui sont tolérées et considérées normales. Et il nous dit, vous Éphésiens, vous chrétiens, il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne pouvez plus marcher dans ce principe-là. Vous avez changé de vie, vous avez été éclairé, vous avez entendu l'évangile. Vous ne pouvez pas vivre cette vie. Vous ne devez pas vivre cette vie. Ce n'est pas normal. Et même Pierre ajoute dans 1 Pierre 4, versets 3 à 4, il dit, je vous le lis, c'est assez en effet d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et l'idolâtrie criminelle. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et il vous calomnie. Il dit, eux ils vivent une certaine manière, après ils trouvent. Mais vous êtes bizarre, vous. Pourquoi vous ne faites pas comme nous? Pourquoi vous ne venez pas avec nous? Pourquoi vous ne vous amusez pas comme nous? Pourquoi vous êtes un peu coincé, vous êtes un peu bloqué, vous n'arrivez pas à faire. Et en plus, il dit, ils vous calomnient. Ils disent des choses. Ils sont fous, ils sont bizarres, et s'ils sont gentils, ils disent, si ça te plaît, voilà. Mais ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un autre système, dans un autre mode de vie. Il n'y a pas eu le « mais Dieu » qui intervient dans leur vie. Et donc, ils ne comprennent pas. C'est carrément autre chose. Et il lui dit, mais il y a un moment où Dieu intervient. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on parle d'une nouvelle vie. Et là, je lis au verset 20, il dit, mais vous, Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Il dit, si, mais vous, si vous avez vraiment entendu Christ, eh bien, ce n'est pas comme ça que vous devez vivre. Hein? Vous ne pouvez pas. Si vous avez vraiment entendu Christ, si vous avez vraiment rencontré Christ, eh bien, ce n'est pas ainsi que vous pouvez vivre. Il dit, parce que vous devez vivre, vous avez entendu un message qui est conforme à la vérité qui est en Jésus-Christ. Et là, il y a trois choses qui découlent. Du fait d'avoir entendu l'évangile de Christ, l'avoir reçu, il y a trois choses qui en découlent. Je lis à partir du verset 21. Il dit, c'est en lui que vous avez appris, vous avez été instruit à vous dépouiller, par rapport à la vie passée, premièrement. Et ensuite, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, de votre intelligence. Et puis, troisièmement, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau. Il dit, si vous avez vraiment entendu l'évangile, si vous l'avez entendu conformément à la vérité de Christ, eh bien, on vous a appris, on vous a instruit à vous dépouiller par rapport à la vie passée, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Je prends chacun séparément. Il dit vous dépouiller par rapport à la vie passée. Dépouiller, c'était le mot qui est utilisé dans Actes chapitre 7, quand ils ont voulu lapider Étienne, et il y en a qui ont enlevé leurs vêtements pour être plus libres, pour jeter les pierres et pour lapider. Eh bien, c'est ce mot-là, le fait qu'ils aient enlevé leurs vêtements et qu'ils les aient jetés au pied de Saul, eh bien, ils se sont dépouillés. C'est ça, dépouiller, c'est on l'enlève et on le met de côté. Ce verbe est traduit par ailleurs dans le Nouveau Testament par « renoncer », aussi par « rejeter ». Un peu, si je vous rappelle, cet aveugle, à la sortie de Jéricho, il y avait un aveugle qui était là, puis il a entendu qu'il y avait plein de monde qui passait tout d'un coup, il a arrêté quelqu'un, il a dit « qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont dit « c'est Jésus de Nazareth ». Il a dit « Jésus de Nazareth », il a commencé à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et les disciples ont dit « Tais-toi, t'es un aveugle, t'es un mendiant là, tais-toi, il est trop important lui, qu'est-ce que tu es toi, tais-toi » Mais lui, il a commencé à crier plus fort, parce qu'il savait que Dieu reçoit autrement que les hommes. Les hommes, ils disent « Écoute, toi tu ne vaux rien, tais-toi. » Dieu, il dit à personne « Tu ne vaux rien, tais-toi. » Et à ce moment-là, Jésus s'arrête et dit « Dites-lui de venir. » Alors là, tout d'un coup, tout le monde dit « Ah, maintenant toute l'attention est sur ce mendiant qui ne vaut rien chez les hommes. » Mais Dieu lui donne de la valeur, il donne toute son attention. Et l'homme vient et dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il dit, un aveugle, on lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Je vois !» Mais il y a une chose dans Marc chapitre 10 et verset 50. Je vous dis rapidement, vous pourrez vérifier après. Mais il nous dit que dès qu'il a entendu que Jésus a dit « Amenez-le », il a dit « Il a enlevé son vêtement et puis il est venu vers Jésus. » Vous savez, le mendiant, pour que ça rapporte un peu plus, il faut quand même un vieux vêtement. Hein, déchiré, usé, s'il a un beau truc neuf, ça ne fait pas bien, hein, ça ne rapporte pas grand-chose. Il n'a plus besoin. Sachant que Jésus allait intervenir dans sa vie, il a déjà rejeté ce qui représentait sa vie passée. Parce que maintenant, il va vivre une nouvelle vie. Il n'a pas besoin. Il a laissé ce vêtement et puis il est venu vers Jésus. Vous savez, il nous dit que lorsque nous venons à Jésus-Christ, eh bien, il y a ce vêtement, cette vie passée, on s'en dépouille, on l'enlève, on la jette, on la laisse, on n'en veut plus, et parce que c'est une vie nouvelle. Et c'est sûr que ce mendiant-là, il a dit que Jésus lui a donné la vue, et il a suivi Jésus. Et c'est ça que cette vie, j'abandonne la vie passée et je commence à suivre Jésus. Et après, il nous dit être renouvelé de l'intelligence, dans l'esprit, de notre intelligence. Jésus avait dit aux Romains, dans Romains chapitre 12 et verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Aux Éphésiens, il leur a dit « Renouvellement de l'esprit de votre âme. » Renouvellement, le mot « renouvellement », là, c'est le mot tout simple, hein, ça ne veut pas dire autre chose, c'est du neuf. Hein, c'est rendre neuf, rendre nouveau. Mais pour Romain, quand il a dit « renouvellement de l'intelligence », il a employé le mot de « métamorphoser votre intelligence ». C'est-à-dire « métamorphoser », ça veut dire que c'était dans un état avant, et maintenant c'est autre chose. C'est le têtard qui est devenu grenouille. C'est la chenille qui est devenue papillon. C'est sur autre chose. Et il dit, le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire que maintenant, je revois, maintenant que je suis en Christ, c'est pas que j'ai une petite carte dans la poche et que je montrerai quand j'arrive au ciel. C'est pas ça. C'est une question de, maintenant, je revois toutes mes pensées. Je revois toute ma manière de voir, de concevoir, d'interpréter, d'entendre, je revois tout, et ça prend quelque chose, c'est pour ça que ça prend pas, c'est juste en une nuit, ça n'arrive pas. Mais il y a tout d'un coup, je rééduque toute ma pensée pour penser selon Dieu. Et qui nous apporte bien sûr des explications plus crédibles sur la vie et sur pourquoi la vie est ce qu'elle est. Et donc, il nous dit d'avoir une nouvelle pensée, d'avoir une pensée métamorphosée. Hein, donc, d'abord, nous dépouiller de la vie passée. Ce n'est pas un lavage de cerveau. Lavage de cerveau, c'est un lavage de cerveau, c'est quand quelqu'un nous impose leur pensée et on ne pense plus. On répète ce qui a été imposé. Ça, c'est un lavage de cerveau. Ce n'est pas ça que la Bible nous dit. C'est-à-dire, c'est je pense selon une autre manière de penser. Hein? Mais je pense. Et finalement, je suis plus libre en Dieu. Je suis plus libre à penser que les gens du monde. Parce qu'eux, ils sont obligés de penser tous un peu dans le même sens. Et après, il nous dit, vous êtes dépouillés, et renouvellement de l'intelligence. Et ensuite, il dit, revêtir l'homme nouveau. Donc le vieil homme, c'est celui du passé, et maintenant c'est un homme nouveau. Et c'est comme si j'enlève l'ancien vêtement et j'enfile un vêtement nouveau. Hein? Et je le garde. Et cet homme nouveau, eh ben, c'est pas juste une question de discipline. C'est pas juste une question de reconversion, c'est pas une question de fréquentation, c'est une question de transformation. Hein? Il nous dit au chapitre 4, là, au verset 24, hein, dans notre passage, au verset 24, il dit « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » C'est pas nous, c'est créé selon Dieu. Créé, ça veut dire que ça n'existait pas et maintenant ça existe. C'est quelque chose de nouveau. C'est un homme nouveau qui n'existait pas avant et qui d'un coup existe. L'ancien Steve, il est mort. Le nouveau Steve, il ne ressemble plus. C'est un peu ce qui était exprimé par le baptême. Regardez avec moi Romains chapitre 6. Oui, regardons ensemble dans Romains chapitre 6. Parce que même, je ne vais pas traiter le baptême, mais rapidement, parce qu'il y en a qui pensent que le baptême est juste un petit rituel pour un peu... Il y a toutes sortes d'idées. Hein. Mais le vrai sens du baptême, c'est ici dans Romains chapitre 6 qui en fait c'est une expression de ce qui est déjà arrivé dans notre cœur. Regardez avec moi. Romains chapitre 6, verset 4. Il dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » C'est-à-dire le baptême, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le baptême d'eau par immersion, la personne descend dans l'eau, sous l'eau, et après elle ressort de l'eau. C'est-à-dire elle est enterrée, et puis elle réapparaît. Il dit, vous êtes enterrés avec Christ, et vous ressuscitez avec Christ en nouveauté de vie, pour une autre vie. Bien sûr, ce n'est pas l'eau qui a fait la différence. C'est une manière symbolique d'exprimer ce qui s'est déjà passé dans le cœur. Hein? Et je continue à lire ici. Donc, verset 5, il dit, en effet, nous, si nous sommes devenus une même plante avec lui par sa conformité en sa mort, si nous sommes devenus un avec lui en descendant dans l'eau, dans la mort avec lui, comme Christ est mort, je meurs avec lui. Et il dit, nous le serons aussi, c'est-à-dire unis à lui, identifiés à lui, aussi dans sa résurrection. Verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, donc il est mort, afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance, pour que ne soyons plus esclaves du péché. Hein, s'il est mort, il ne peut plus agir. Verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. Voilà, donc après, mais l'image du baptême est très importante, et Jésus a, autant Jésus a donné la scène, pour qu'on n'oublie pas la mort de Christ sur la croix, autant il nous a donné le baptême pour nous dire, mais vous savez, ce principe, c'est que vous mourrez avec lui, comme lui est mort, vous mourrez avec lui, et vous ressuscitez pour une vie nouvelle. Hein? Donc, les gens qui vont se faire baptiser, mais après, il n'y a rien qui change, on dit, mais ils se sont trempés dans l'eau, hein, ceux-là, ils ne sont pas baptisés, ils ont juste pris de la flotte. Et ils auraient mieux fait de faire ça à la maison, parce que là, ils auraient eu le savon en plus. Mais c'est la réalité, c'est que c'est ressuscité, et je marque comme ça officiellement, c'est-à-dire publiquement, je déclare à tous ce qui s'est déjà passé dans mon cœur. Dans mon cœur, je suis déjà mort au péché et je vis pour Christ maintenant. Et le baptême, c'est une manière de dire officiellement à tout le monde, publiquement, moi, ça y est, le passé s'est passé et maintenant, dorénavant, je vis une nouvelle vie. Vous avez peut-être remarqué dans ce passage hein, d'Éphésiens chapitre 4 qu'il y a le mot « marcher ». Hein, je reprends ça, on l'a vu au verset 17. Il dit « Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » En fait, dans l'épître Paul, dans Éphésiens, il emploie 7 fois le mot « marcher ». Pour ceux qui aiment le grec, c'est « péripatéo ». Mais il dit c'est marcher. La première fois, c'est dans chapitre 2, verset 10. Il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et au verset 10, il nous dit que maintenant, eh bien, Dieu a préparé, nous a créé et nous a préparé à vivre une vie nouvelle. Et il dit les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le mot pratiquions, en fait, dans le grec, c'est le mot marcher, c'est le même mot. C'est-à-dire, il nous a préparé des œuvres, des bonnes œuvres. Maintenant que je suis en Jésus-Christ, je fais les bonnes œuvres, non pas pour gagner le ciel, mais parce que Dieu a fait une œuvre en moi. Je fais les bonnes œuvres parce que je suis une nouvelle personne. Je fais les bonnes œuvres parce que Dieu a changé mon cœur. Ma pensée est changée. Donc ce que je produis est différent. Et, il dit, mais c'est les œuvres, et je marche dans ces œuvres. C'est-à-dire, comme je marchais avant selon une certaine musique, hein, celle du monde, maintenant je marche selon une autre musique. Hein, c'est chaque danse a sa musique, n'est-ce pas, hein? Eh bien, avant je dansais à une certaine musique, maintenant je danse à une autre musique, hein, celle de Dieu. Donc là, il employait marcher dans le chapitre 2. Au chapitre 4, eh bien, au verset 1, il nous dit de marcher d'une manière digne de la vocation. Marcher d'une manière digne de la vocation. Il dit, Dieu vous a appelé à vivre une vie, marchez de manière digne de cela. Et bien sûr, on a vu le chapitre, verset 17, 4, 17, c'est le passage qu'on vient de lire. Au chapitre 5, il dit, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Marchez dans l'amour. Ce n'est pas seulement promener avec un petit cœur comme ça pour l'amour. Hein, c'est joli. Hein, vous savez, n'importe qui peut acheter une carte à Saint-Valentin. Il y en a plein qui achètent des cartes comme ça. Et puis, mais notre monde, il ne devient pas meilleur hein, après le 14 février. Ça, c'est trop facile. Il dit marcher dans l'amour. C'est un mode de vie. Ce n'est pas quelque chose que je raconte quand je rencontre quelqu'un qui me plaît. Mais c'est un mode de vie. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Chapitre 5, verset 8, il dit « Marchez comme des enfants de lumière. » Marchez comme des enfants de lumière. Ceux qui vivent dans les ténèbres, qui ont une vie un peu... Eux, ils ont un mode de vie. Et après, il y a celui qui vit pour Dieu et il vit autrement. Marchez comme des enfants de lumière. Et puis aussi, il dit au chapitre 5, verset 15, il dit « Prenez garde de vous conduire. » C'est le même mot. De marcher avec circonspection, c'est-à-dire droit. Ça, c'est la vie de l'enfant de Dieu. Donc, je crois que si on prend le temps de méditer, on comprend qu'il y a une vie passée et il y a une nouvelle vie. Et c'est pas tout le monde, je suis born again, c'est facile à dire. Laisse-moi voir le changement dans ta vie. Et c'est là où on verra le fruit. Et il y a tellement de gens qui se disent, moi je suis chrétien, je suis né de nouveau, ils sont tellement un mauvais témoignage, moi je comprends les gens qui disent, moi ça ne m'intéresse pas. Ils disent, je ne vois pas la différence. En fait, je rencontre des gens qui ne vont pas à l'église, qui sont plus gentils que ceux-là qui vont à l'église. Et c'est vrai. Et si je ne savais pas ce que je sais de Jésus-Christ, je penserais comme eux. Mais nous avons été éduqués l'enseignement de Christ. Et ça c'est... Il dit, et c'est pas la peine de critiquer les autres. Commence à vivre cette vie nouvelle toi-même. Je dois la vivre. Hein. C'est pas à dire, ah oui, c'est des hypocrites, tu es hypocrite partout. Et, mais ne sois pas comme eux. Hein. Maintenant, tu viens de les juger comme quoi ils sont hypocrites. Alors toi, est-ce que tu es meilleur hein? Alors qu'il y ait ce changement de vie. Tout à l'heure, je parlais de la métamorphose. Vous savez, la chenille qui est l'ennemi du jardinier, hein, qui lui mange toutes ces petites plantes, à peine elles apparaissent, elles sortent du sol, lui vient, il détruit tout. Alors, ils n'aiment pas ces chenilles-là. Mais une fois que la chenille est devenue papillon, elle ne le dérange plus. Elle vit une autre vie. Elle vit. Ça ne viendrait jamais à l'idée de dire au papillon, écoute, retourne à la vie avant, retourne à ramper sur le sol comme avant. Non, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi retourner à l'ancienne vie? Mais c'est pareil pour l'enfant de Dieu aussi. Une fois que Dieu nous a transformés, pourquoi retourner? Il dit, mais ne marchez pas comme les païens, ne marchez pas comme eux. Vous vivez votre nouvelle vie si vous avez vraiment rencontré Christ. Hein, celui qui est vraiment né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est il devrait avoir aucun désir de redevenir ce qu'il était avant. Parce que il y a eu un renouvellement de sa pensée, un changement dans sa pensée. Il ne veut plus cela, il veut autre chose. Et c'est pour ça que moi je peux dire, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, Et il y a plein de choses que les gens pratiquent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de faire ça. Moi, je les regarde. Vous savez, le 31 décembre, là, quand ils sont en train de faire la fête, eux, ils sont en train de s'amuser. Moi, je regarde ça, je me dis, mais vous ne voyez rien d'intéressant dans tout ça. Je dis, mais moi, je m'ennuierais dans leur truc, leur fête, là. Parce qu'ils sont en train de rigoler, de n'importe quoi, se rouler par terre. Waouh, on s'est amusé, on le vient. Je dis, mais je ne sais pas. C'est pas ça. Moi, ça ne m'attire pas. Hein. Je dis, bah, moi, je préfère aller au lit, hein, dormir, que faire ça. Et encore mieux, c'est d'être avec les enfants de Dieu et prier et chanter à la gloire de Dieu. Ça, là, j'ai passé une belle soirée. Vous savez, c'est autre chose, c'est une autre vie. Il faut comprendre cela. Et Paul dit, il le dit aux Éphésiens, il dit, oui, mais je sais, les gens autour de vous, ils ont un mode de vie, mais vous, vous avez un autre mode de vie. Et vous devez vivre ce nouveau mode de vie. Si vous êtes... Vous savez, je préférerais que les gens qui ne sont pas vraiment chrétiens, qu'ils ne le disent pas. Au moins comme ça, ils ne sont pas une mauvaise image. Il dit, Jésus a dit, des Juifs, il a dit, c'est à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Et c'est dommage, c'est dommage. Moi, je rencontre, je discute avec des hindous, des musulmans, avec des athées. Ils disent, vous, les chrétiens, ils n'ont rien à m'apporter, rien à m'apprendre. Et dans un sens, il est un peu vrai. Parce que ce qu'il a vu, il a dit, vous n'avez pas vu les vrais. Hein. Vous n'avez pas vu ce qui est vraiment sérieux. Alors soyons et vivons la vie de Christ. Ce ne sera pas tout à fait au niveau de Christ, mais si on ne fait pas d'efforts, ça ne va pas s'améliorer. Hein. Et Dieu veut nous aider. Alors il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens, mais dépouillez-vous du vieil homme. Subissez le renouvellement de l'intelligence, qui soit libre de pouvoir mettre Dieu dans l'équation et voir ce que ça donne. Et puis, et de vivre cette vie. Et que Dieu nous aide, chacun, peu importe si les autres suivent, peu importe ce que mon voisin fait, moi, je veux vivre pour Dieu et personne d'autre. Que le Seigneur nous aide. Et puis, dites, mais bon, j'aimerais bien cette expérience. Eh bien, ce n'est pas en mettant une pièce dans une machine que vous l'aurez, c'est en venant à Jésus-Christ. Hein? Et devant Christ, devant la croix de Christ, dire « Christ, je comprends maintenant pourquoi tu es mort sur la croix. » Ce n'était pas un martyr, mais c'est un sacrifice pour le pécheur, pour mes péchés que tu es mort. Tu as porté la condamnation. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais grâce à toi, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est lorsque je saisis cette pensée, et après il peut y avoir un « mais Dieu » dans ma vie. Et après, c'est une autre orientation, une autre direction. Prions. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ta parole. Nous avons les mêmes difficultés qu'ont eu les chrétiens du premier siècle. Peu importe de la culture, peu importe les religions, peu importe la vie matérielle qui existait ou qui existe maintenant, c'est le vrai problème, c'est le cœur de l'homme. Et Père, nous te prions de nous aider à nous confronter à cela, de regarder les réalités en face, de t'entendre et de voir ce que tu nous proposes. Si tu n'avais pas cru que nous étions dans une impasse, eh bien tu n'aurais pas envoyé Jésus-Christ pour nous offrir une issue. Père, nous te remercions que dans ta grâce, tu as tendu ta main en la personne de Jésus-Christ pour nous sortir de notre situation et d'avoir tout d'un coup une perspective nouvelle, des options nouvelles, une vue nouvelle, une interprétation nouvelle et un résultat qui ne sera pas vain. Père, nous te remercions pour ta grâce et ton amour. Et loué soit ton nom. En Jésus-Christ, nous prions. Amen.